Ça va bien?
Oui, je suis vraiment contente ce matin de voir que vous avez participé à l'atelier. Parce que ce n'est pas un atelier ordinaire que vous êtes inscrit ce matin. Cet atelier-là, c'est un atelier que je vais vous parler, pas juste dans le fond des connaissances les plus récentes, mais aussi pourquoi cet atelier-là me touche autant. Toute ma famille est atteinte de ce trouble-là. Mon père, ma mère, mon frère, ses trois filles, moi et ma fille. À différents niveaux, puis vous allez voir aussi l'impact que ça a eu dans nos vies. Moi, mon père s'est suicidé quand j'avais 30 ans. Fait que ça a des impacts qui sont très négatifs, surtout si c'est un handicap qui est invisible, mais les gens pensent qu'on fait par exprès. Paresseuse! Oui, non, on fait quatre consignes qu'on te donne, tu comprends pas les consignes. Quand qu'elle veut, elle est capable. Hein? Quand qu'elle s'active, elle aime ça. Mais si ça l'intéresse pas, elle décroche tout le temps. Fait que souvent, on va recevoir des commentaires qui sont négatifs. Et une des premières choses qu'on peut perdre, c'est notre estime de nous-mêmes. Notre estime de nous-mêmes, c'est représentatif. Je peux vous présenter ça par une feuille. Quand moi, je suis venue au monde, bien, je voulais être aimée, puis je voulais avoir une bonne estime de moi-même, puis j'avais une belle feuille blanche comme tout le monde. Mais là, les gens ont commencé à dire, parce que moi, j'ai une famille de deux enfants, c'est moi la plus vieille. Puis moi, j'ai un TDAH, la madame, elle bouge, elle est pareil. Toujours pris comme c'est un spring. Puis lui, mon frère, est à prédominance inattentive. Lui, il ne parle pas, bouge pas. Des fois, je me demande s'il respire, il est fin, il est doux, puis tout le monde l'aimait dans la famille. Et là, les gens ont commencé à dire à ma mère, « Hey, t'as-tu échappé ma France dans le bain? C'est pour ça qu'elle t'en avait de même. Hey, on va faire un party de Noël, t'es obligé de l'amener à titre, hein? On peut faire ça juste en adulte. » Moi, on dit, « Marquis, c'est bien, t'as pas de compétences. Si t'as fait, tu l'as mal élevé, ça n'a pas de bon sens. » Là, j'ai commencé à aller à l'école. Puis à l'école, ils m'ont dit, « T'as pas le trouble dans ta classe. Oh non, tu vas partir en dépression toi cette année. Hey, t'as-tu cet enfant-là dans ta classe? Pensez-vous que j'entendais pas ces commentaires-là? Qu'à quel point j'ai pas de problème d'oreille, là? » Là, les directions disaient, encore-toi aujourd'hui, fait quatre fois matin que je te vois dans mon bureau. Là, les professeurs disaient, bien, la madame, 12%. Les gens pensaient que j'étais la plus niaiseuse de mon école. Je vais vous expliquer comment mon parcours a changé, parce que je suis tombée pour essayer d'être la plus intelligente de mon école. Parce que quand les gens ne connaissent pas ta condition, ben, ils vont donner toutes sortes de commentaires. Ah, non, tu ne l'as pas, elle. Mais là, on va te mettre dans la classe. Fait que là, tout le monde était avec le professeur, puis moi, j'étais barricadée en arrière. Fait que mon pupitre, au lieu de faire face à tout le monde, mon pupitre était viré à l'envers, face au mur au fond, puis avec des panneaux. Aujourd'hui, si on ferait ça, c'est certain que probablement qu'on appellerait la police, qu'on ferait rentrer les enseignants dans les bureaux. On ne peut pas faire ça. Parce que c'est des conditions, dans le fond, qui sont peu ou pas connues. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un survol sur la problématique. Moi, là, quand je suis arrivée ici, les gens m'ont dit, « Madame Maisonneuve, vous devez me faire une formation juste d'une heure. » J'ai dit, « Je peux pas! » J'ai dit, « Les parents vont tellement aimer ça, je n'aurais même pas fini ma conférence. » J'ai dit, « Ils vont tous être suspendus à mes lèvres. » Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur deux heures. C'est pour ça que cet après-midi, ça va être une poursuite. C'est évident qu'en deux heures, ce n'est qu'un clin d'œil, mesdames et messieurs. Je pourrais vous en parler. Normalement, cette formation-là est faite sur 45 heures à l'université. Fait qu'on va vous donner seulement des clins d'œil. Mais ce qui va être très important, c'est qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais vous allez partir avec beaucoup, beaucoup de richesses. Tantôt, on va regarder un peu les documents que je vous ai donnés. Juste dans les sites Internet que je vous ai donnés, vous avez environ 10 000 pages si vous allez télécharger ce que je vous ai donné. Mais aussi des bonnes ressources. C'est important de s'assurer, quand on fait de la recherche, de trouver des bons sites. Moi, des fois, j'ai des parents qui viennent à ma clinique et me disent « Oui, mais Mme Maisonneuve, j'ai vu ça sur Internet. » Mais sur Internet, il y a de la pornographie aussi, mesdames et messieurs. Il faut choisir ces sites. Et vous allez voir, dans ce que je vous ai donné comme pochette, vous avez des sites extraordinaires. Puis on va en parler au cours de la rencontre. Oui. Oui. Une, deux. Venez, mesdames.
Merci.
Parfait. On commence. La première chose qu'on va regarder, qu'on va se poser comme question, est-ce que le déficit d'attention est un faux trouble inventé par les compagnies pharmaceutiques parce qu'ils veulent vendre leur pilule? Il y a du monde qui pense vraiment ça. Moi, mon conjoint, j'ai choisi un des meilleurs conjoints, il est psychologue. Puis moi, j'ai un grave déficit d'attention, ça, c'était le meilleur des matchs, ça. Puis lui, il est chercheur. Puis moi aussi, je fais beaucoup de recherches avec lui. Puis à un moment donné, quand je donnais des conférences, souvent les gens me disent « Non, 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 c'est inventé par les compagnies pharmaceutiques, ils veulent pousser leur pilule. » Fait que moi, j'ai décidé de faire une recherche. J'ai dit « Où, à travers la planète, on n'a pas de médicaments? » Écoutez, ils trouvaient la meilleure place à Cuba, avec l'embargo, de la misère à trouver un aspirine là-bas. Fait que je dis « On va aller à Cuba. » Mais je dis « En plus de ça, à Cuba, les gens sont intelligents. » Quand on fait des recherches, on est obligé d'avoir des pédiatres, des neuropédiatres, on est supposé d'avoir une équipe qui connaisse la recherche. C'est un monde-là, on peut surtout des doctorats, et c'était l'idéal. Le meilleur des deux mondes. On est allé à Cuba, on a fait une recherche. On a travaillé là pendant 4 ans. Quand on est revenu,
La prévalence, elle est pareille. Tantôt, on va vous en parler.
La prévalence, ça veut dire le nombre d'enfants qui peut être atteint ou le nombre d'adultes qui peut être atteint.
C'est pareil, mesdames et messieurs. Fait qu'inquiétez-vous pas, ça n'a rien à faire avec les compagnies pharmaceutiques. On dit aussi un trouble qui est surdiagnostiqué. Tantôt, on va regarder ça. Y en a-tu plus aujourd'hui? Hein? Ça s'attrape-tu aussi avec un baiser, cette maladie-là? On va regarder ça aussi tantôt, ça va être inquiétant. Mais on va voir tantôt que l'environnement peut occasionner le déficit d'attention. On va regarder ça. Pourquoi aujourd'hui, on est un petit peu plus qu'avant? Puis pourquoi ça semble plus nombreux? On va regarder ça tantôt. On va regarder aussi, est-ce que c'est un problème causé par des mauvaises habiletés parentales? C'est faux! S'il y a quelque chose de faux, c'est bien ça. Ma mère a élevé mon frère de la même façon qu'elle m'a élevé, puis mon frère était bien, bien calme. Mais il y avait d'autres conditions. Si on regarde aussi, est-ce que c'est un trouble qui va affecter seulement les petits garçons? C'est évident que dans les classes, la plupart du temps, c'est les petits gars qu'on va identifier. Parce que vous allez voir tantôt que le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, touche trois garçons versus une fille. Fait que moi, je suis un peu l'exception là-dedans. Fait que c'est évident que souvent, on pense qu'on évalue juste les petits gars. Mais c'est parce que les petits gars ont un TDAH, fait qu'ils dérangent le prof. Fait que c'est évident qu'on va avoir tendance plus à l'identifier, puis à demander que cet enfant-là soit identifié avec son déficit d'attention. Et la dernière réponse, est-ce que c'est un trouble, dans le fond, du cerveau qui est bien étudié avec des lignes directrices pour un diagnostic et un traitement? C'est évident que c'est le F, mesdames et messieurs. Je ne vous apprends rien. Et là, on va se poser des questions. Qui, à travers la planète, reconnaît ce trouble-là? On a U.S. Department of Education, National Institute of Health, U.S. Congress, U.S. of Disease Control and Prevention, U.S. Surgeon General, toutes les associations médicales, psychiatriques, psychologiques, éducatives au Canada, aux États-Unis, tout partout en Europe, en Chine, en Angleterre. On fait plusieurs recherches aussi avec la Belgique et à travers la planète. C'est vraiment un trouble présentement qui est étudié. Puis tantôt, ce que je vais vous parler, c'est que c'est pas juste les symptômes. Hein, les symptômes qu'on pourrait dire, oh, ils sautent tout partout, puis t'as-tu vu? Ça, c'est pas grave, sauter tout partout. Le problème, c'est les déficits cognitifs. Font mal aux gens. C'est ce qu'on va regarder, la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'un déficit cognitif et qu'est-ce qu'un symptôme? Si on se pose la question, ce trouble-là affecte environ combien de pourcents d'enfants sur la planète? Environ de 5 à 8 pourcents d'enfants. Et moi, je pense que ce chiffre-là, il est faux. Parce que tantôt, on va vous dire pourquoi je pense qu'il est faux. Si on dit qu'on regarde au niveau de tous les enfants qui rencontrent les critères du trouble déficit d'attention, moins de la moitié sont diagnostiqués et traités. Vous allez voir tantôt à la diapositive 25 l'impact que ça peut avoir dans une vie qui n'est pas accompagnée, diagnostiquée ou traitée. Et de tous les enfants qui viennent des familles les plus pauvres, sont ceux qui reçoivent le moins de traitement. Si on regarde ce trouble-là et on dit lorsque tu as un trouble à l'enfance, d'un trouble déficitaire d'attention, tu as combien de chances d'être capable de garder ça quand tu arrives à l'adolescence? Tu as 80% de chances de garder ton trouble. Fait que là, tantôt, on va voir comment ça se fait. Ça disparaît-tu, ça, tantôt? On va aller voir pourquoi il y en a qui peuvent être dans des meilleures conditions rendues à l'adolescence, parce que le cerveau continue de se développer. Quelle bonne nouvelle! Et on a 67% de chances de garder ce trouble-là rendu à l'âge adulte. Moi, c'est évident que je l'ai et je vais le garder. Parce que mon trouble est très, très, très sévère. Et si on regarde aussi, quels sont les trois genres de types? Hein? Il y en a combien de types de déficit d'attention? Il y a trois types de déficit d'attention. On a celui qu'on appelle, à prédominance, hyperactive et impulsive. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est mon trouble à moi. Je ne sais pas si je peux écrire, je dois être capable d'écrire sur le tableau. Ce trouble-là, on n'a pas besoin d'être docteur pour voir que la personne peut avoir ce trouble-là, parce que ça paraît. On saute tout partout, on se tortille. Écoutez, je t'ai pris sur un ressort depuis que je suis petite. Et ça existe depuis 1845, le TDAH. Et c'est un Allemand qui a découvert ça. Et ensuite, on a l'autre trouble. On appelle la prédominance inattentive. Ça, c'est ma fille. Puis ça, c'est la lunatique. Elle est belle et cute, elle s'assied en classe, tout le monde la trouve bien cute. Là, elle regarde le prof, puis c'est une cavalière hors pair, ma fille. Fait que là, elle est assise, puis elle regarde le prof. Puis là, elle est en fin de semaine, on va faire telle compétition, on va faire ci, on va faire ça. Elle regarde, dans, oh, la mouche qui la mouche, elle dans le corridor. Oh, camion de pompier qui vient de passer, le crayon de l'ami qui vient de tomber à terre, on retourne en avant. Mais il n'y a rien qui est paru. Là, vous allez voir que ces enfants-là sont bien plus à risque d'échecs scolaires dans leur vie. Parce que ça ne paraît pas. Puis, savez-vous depuis quel temps qu'on a découvert ce trouble-là? Il est tout à fait récent, c'est chaud, chaud, chaud. On vient de découvrir ça en 1994, le TDA. Ici, on retrouve trois garçons pour une fille. Et le TDA, on vient de changer ça de bord. Hey! Trois petites filles pour un garçon.
Les petites filles, normalement, n'ont pas trop de comportement. Ils veulent plaire à leur enseignante. Fait que c'est d'elles, souvent, ces enfants-là vont passer sous le radar. Savez-vous quel trouble qui va aussi coexister avec ce TDA-là? Normalement, on va retrouver des gens qui sont anxieux. Le niveau d'anxiété est encore plus élevé chez la prédominance inattentive. Fait que moi, ma petite fille, c'est une petite nerveuse. Tandis que le TDAH en haut, qui m'ont trouvé à moi, ah ben les autres, c'est plus opposition. Moi, je déteste la police. Moi, je déteste toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai pas peur. La police, elle me dit oui, moi, j'ai dit non.
Bonjour.
Oui.
On s'excuse d'être
là. C'est correct.
C'est la faute de la femme.
C'est évident que, vu que c'est un trouble qui, normalement, passe sous le radar, puis qui est un trouble qui est tout à fait récent aussi, c'est évident que le 8% de prévalence, on s'entend-tu qu'il devrait en avoir plus? Et d'avant, ce qu'on évaluait, comme je vous ai dit, c'est les petits gars qui dérangent le plus de TDAH. Mais là, présentement, on n'évalue pas juste les petits gars. Là, on est rendu qu'on évalue les petites filles. Parce qu'on disait, mon Dieu, t'as-tu vu? Rentrez pas, ils prennent du retard, sont souvent désorganisés, ils ont oublié leurs affaires, ils laissent la tête, ils ont même oublié. Ma fille, je ne sais pas combien de temps le mitaine que j'ai acheté, à la ouette, t'es moche. Écoutez, j'allais au 1$, vous devez les connaître. Ça, c'est un magasin. Quand je rentrais au 1$, ce que je disais aux gens, il y a combien de paires de mitaines dans la boîte? Fait que là, madame, elle disait, elle en a beaucoup. J'ai dit, non, je ne veux pas savoir si elle en a beaucoup. Je n'en ai combien? J'ai dit, j'aimerais ça être capable. J'ai dit, de savoir le nombre. Fait que là, madame, elle commence à compter. Elle dit, il y en a 32. Je les achète. Elle dit, vous devriez être en mettre dans une école. Je dis, non, c'est pas pour mon école, c'est pour ma fille. Elle parle de tout. Fait que là, j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, écoute, on va prendre le foulard. Puis je dis, là, tu vas mettre le foulard, grand-mère, qui est mitaine, t'as tué, puis ça va faire ça, moi, on va faire ça en bloc. Elle a quand même perdu 2-3 fois ces affaires-là. Puis vous allez voir l'impact aujourd'hui. Là, ma fille, elle étudie en médecine vétérinaire. Elle est dyslexique, difficulté en lecture. Elle est dysorthographique, difficulté en écriture. TDA, anxieuse. Puis elle est rendue où elle est rendue. Parce qu'on l'a accompagnée, on l'a aidée, on l'a pris à temps. Il y a d'autres enfants, malheureusement, que ce n'est pas leur cas. Ils ne sont pas pris à temps, ils ne sont pas aidés. C'est évident que les échecs sont encore plus grands. Et on a l'autre qu'on dit le type combiné qui est le mix. Ça veut dire que la prédominance inattentive, l'hyperactive et l'impulsive est ensemble au niveau du trouble. Si je regarde aussi, c'est important de savoir que quand tu as un déficit d'attention, tu n'as pas juste ça à l'école, là. Moi, j'ai mon déficit d'attention, je l'avais à l'école. Je l'avais avec ma mère, je l'avais avec mon père. Je l'avais au restaurant aussi, je l'avais avec les autres aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, hein? Ça nous appartient. Déjà, c'est important de savoir ça. C'est pas juste un trouble scolaire. Combien de fois, des fois, les enseignants me disent « Oh, c'est pas grave, c'est juste à l'école, juste à l'école. » Là, non, on a ça tout partout dans mes camps d'été. Moi, c'était l'enfer. La fille courait le plus vite, une chance. Mais je peux vous dire que ça me touchait aussi même dans mes camps d'été. Caractérisé aussi par un pattern d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Là, des fois, il y a des parents qui pensent, parce qu'une fois, tu as perdu tes lunettes, mettons, durant la semaine, tu penses que tu as un déficit d'attention. Ben non! Il faut une durée. Il faut une fréquence. Ça fait 14 fois qu'aujourd'hui tu perds tes lunettes. Mettons que c'est un petit peu plus dangereux. Puis il faut une altération au niveau du fonctionnement. Si tu n'as pas d'altération au niveau du fonctionnement, excusez, désolé, là, on ne peut pas de déficit d'attention. Là, vous allez voir tantôt, ce n'est pas juste les symptômes qu'on va regarder, c'est les déficits qui coexistent avec le déficit d'attention. L'altération au niveau du fonctionnement, souvent, ben moi, mon hyperactivité, tu la voyais à la maison, tu la voyais à l'école, tu la voyais aussi dans les camps d'été. Ma fille, elle, son inattention, ben, je la voyais beaucoup à l'école. Parce que les professeurs disaient, elle est désorganisée, elle oubliait ci, elle oubliait ça, elle est en retard, elle oubliait son livre. La maison, elle arrivait à 9h le soir, elle disait, maman, j'ai un examen demain. Mais j'ai oublié mon livre! Fait que là, c'était la fin du monde, parce que les oublis étaient importants. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la maison, par contre, je le voyais un petit peu moins. Parce que, tu sais, ma fille, elle n'a pas sa main, je lui attends 5 minutes, là, que tout le monde a passé à la table, il y a juste un enfant dans ma famille, ils habitent, tu sais. Fait que c'est évident que des fois, la prédominance inattentive, on le voit un petit peu moins à la maison. Parce que, des fois, si vous avez moins d'enfants, le niveau d'attention, des fois, est un peu différent. On peut mieux adapter pour nos enfants. Si on regarde après ça, on va regarder un petit peu c'est quoi les symptômes. Moi, ce que je peux vous donner comme image, Marie-France Maisonneuve, ça c'est le mien. Vous devrez connaître le Luc plus vite que son ombre. Mais ça, c'est moi, ça. Et on est vite, on est rapide. On est tout partout. On est souvent des gazelles. Et là, on va regarder les symptômes. Fait que moi, quand j'étais petite, j'étais toujours en train de remuer les miens, les pieds. J'étais pas en train de rester assis. Puis là, je disais à ma mère, imaginez-vous la période de devoir de leçon, ma mère, elle me dit, écoute, elle dit, je vais te taper sa chaise. Elle ne sait pas quand elle s'est assise, t'es en train de bouger, t'es rentré dans le tour, le petit pain. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai tombé en bas de ma chaise, ma mère était vraiment découragée. Fait que je n'étais pas capable. Puis quand j'étais en classe, bien, je vous le dis, en première, deuxième année, je me promenais pour la bouche, je n'avais aucun saint bon sens. C'était, là, je disais à ma mère, maman, c'est pas ma faute, c'est mon cerveau. Même à l'époque, j'avais raison, mais je vous à l'époque. Souvent, on est en train de se lever dans des situations où on doit rester assis. Souvent, on va courir, grimper tout partout dans des situations qui vont être peu adéquates. L'hyperactivité, la bonne nouvelle, va chuter de 75% quand tu arrives à l'adolescence. Fait qu'au lieu de me promener en tout partout en touchant sur la table, ça se transforme en bougeotte interne. Fait que quand j'étais au secondaire, ben là, j'étais assis, là, c'est la table qui bouge. Là, je me tourne la patente, je tourne les cheveux, clic, mon crayon. Quand t'es rendu adulte, il faut faire attention parce que quand on est rendu adulte, ça se corse. Ça se transforme en impatience. Et c'est très dangereux. Parce que moi, j'ai une clinique, hein, j'ai 50 employés. J'ai 50 employés. Parce qu'on vient en aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes qui sont aux prises avec le trouble déficit d'attention et les troubles d'apprentissage. Ça n'a rien à faire avec notre intelligence. John F. Kennedy est intelligent. Tom Cruise est intelligent. Walt Disney est intelligent. Ce sont des gens qui sont intelligents. Mais si on ne les prend pas à temps pour les aider, parce qu'à 30, ça s'apprend, c'est évident, dans le fond, qu'il va y avoir des conditions qui vont être difficiles. Puis nous, à ce moment-là, au niveau de l'entreprise, on a commencé à évaluer les enfants. Là, à un moment donné, dans mon bureau, il y avait des parents qui commençaient à se donner des coups de coude. Je dis, mon Dieu, ce qui se passe? Et là, le parent disait, alors, hey, ça te ressemble? Non, ça te ressemble. Hey, ça nous ressemble! C'est évident qu'il y a beaucoup de génétique. Il y a 80% de génétique. C'est un, dans le fond, au niveau de la génétique, est aussi élevé que le gène de la grandeur. Fait que c'est quelque chose de vraiment d'important, on dit 80%. C'est important, dans le fond, d'être capable de mettre des mesures en place. Parce que si on met des bonnes mesures en place, le taux de réussite est 100%. Mais si on ne met pas des bonnes mesures en place, c'est évident qu'il va y avoir des défis qui vont être importants. L'autre chose qui est importante aussi de savoir, moi, comme vous voyez la petite fille qui saute là, ben, je me suis cassée deux fois moi chez elle. Parce que là, je sautais dans la chambre à ma mère. Puis, c'est lui qui saute le plus beau, le frère. Puis moi, mon frère était plus petit que moi, combien de niaiseries que j'ai fait faire. Bien, souvent, c'est arrivé, il tombe en bas du lit. Parce que là, je me suis au plafond, là, tu sais, je me donnais toutes sortes de défis. Fait que souvent aussi, on peut se retrouver bien plus à l'urgence que les autres. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai perdu mes permis de conduire plusieurs fois avec cette vitesse. Puis à un moment donné, ben, à 16 ans, j'ai eu mon char, j'étais contente. La police, elle m'arrête. Parce que moi, je n'ai pas juste un TDA, j'ai un trouble de position. Quand ma mère a dit oui, je disais non. Quand ma mère a dit non, je disais oui. Et quand la police, elle m'arrête, elle dit « Mademoiselle, qu'est-ce que vous venez de faire là? » J'avais donné un stop, tu sais. Fait que je dis à la police, « Tu penses-tu que je suis en train de jouer au soccer? » Elle n'était pas de bonne humeur. Fait que là, elle me donne un ticket. 100 piastres, 2 points de démêlée. Mais quand tu as un tour de position, tu es impulsif, puis tu as beaucoup d'impatience, et là, j'ai commencé à dire au policier, « Toi, mon maudit! » Et là, ça sortait tout bas, tout côté. Mais c'est pas compliqué. La police a pris mon ticket, elle l'a déchiré. Puis jamais je vais oublier ça, y compris mes parents. 525 piastres, parce que j'ai fait de l'impolitesse à un agent. Et la vitesse, bien, on s'entend-tu que nous autres, on aime plus de risque. Combien de fois, quand je descends cette île, donner des formations, c'est l'enfer. Il faut que je me fasse conduire par quelqu'un de mon équipe, parce que sinon, on va peut-être pogner 4 tickets en descendant, là. Fait que souvent, on est impulsif, on se retrouve dans des conditions. Imaginez-vous l'impact que ça a eu au niveau de mon couple. Hein? On dit des mots sans réfléchir. Ou je dis à ma mère, je vais te tuer, ma maudite, t'es pas fiche. J'avais 12 ans, j'étais tout enragée. Puis ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas fin que je vais me dire. Imaginez-vous comment ça peut des fois sortir tout croche. On dit aussi, on a souvent du mal à se tenir tranquille, on est souvent à grimper sans ressort. Puis une de nos caractéristiques, on est des verbaux moteurs. Et on parle-tu, nous autres, hein? Et on négocie, on parle. On a bien des affaires à jaser, nous autres. Ensuite, si on regarde au niveau de l'impulsivité, ça nous a occasionné plusieurs défis dans ma vie, vous allez voir. On est des gens qui, dans le fond, vont souvent laisser la réponse partir ou s'échapper avant que la question soit finie. Imaginez-vous au secondaire. Au début, moi, j'étais bien, bien brillante. Avec le professeur, il nommait des petites questions. Je dis oui, je dis non. Fait que je gagnais des points. Mais quand ça s'est corsé en troisième année, quatrième année, eh bien là, il y avait un bout intelligent, mais si je n'entends pas en fait de la question. Fait que souvent, je donnais des réponses au détriment de ma qualité psychologique, parce que souvent, je gorochais n'importe quoi, ou des fois, je disais aux enseignants, « Tu veux cette plate, elle? » Ma mère, elle disait, « T'as le droit de le penser. » Mais tu ne dis pas ça au effort, mais France. Fait que ça aussi, ça l'a eu beaucoup, beaucoup. Suspendu de l'école, suspendu de la classe, suspendu. J'ai connu ça beaucoup dans ma vie. Oh mon Dieu! Souvent aussi, n'arrive pas à attendre son tour. Quand on décide d'attention, le temps pour nous, ça n'existe pas. Puis savez-vous que dans le cerveau, il n'y a aucun endroit où le temps a été construit? Si je parle du cerveau, puis je dis, oh, j'aimerais ça évaluer le langage, ah, ben il y a une partie dans l'aire de Broca, c'est là qu'on traite le langage. Ah, j'aimerais ça savoir au niveau moteur. Ah, ben il y a l'aire pariétale que tu peux évaluer, t'es hâte de savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais le temps, ça n'existe pas. Le temps, c'est inventé par l'être humain. Pourquoi on a inventé ça? Bien, pour être capable de s'organiser, de planifier, d'aller dans... Puis que tout le monde soit capable d'être sur le même diapason. Quand tu as un déficit d'attention, c'est « now or not now ». Fait que si c'est pas tout de suite, ça n'existe pas. Fait que quand moi, j'étais arrivée au secondaire, là, ma mère a dit, c'était un vendredi soir, « Étudie, lundi, tu as un examen en histoire. Lundi! » Hey, moi, dans ma tête, c'était dans 3 semaines, ça, là. Fait qu'imaginez-vous l'impact que ça a eu. Hein? J'arrivais pas à planifier mes choses au secondaire, là, j'avais multitâche. Imaginez-vous, quand quelque chose m'intéresse, là, moi je fais quelque chose que j'aime, là, mettons, j'écoute Russell Barkley, un des plus grands chercheurs au monde sur le déficit d'attention, là je l'écoute, ça fait 6 heures, je l'écoute, mon English is not too well, et puis là je l'écoute, mais moi dans ma tête, ça fait 1 minute qu'il me parle tellement j'aime ça, parce que là ça m'intéresse. Mais si tu m'envoies voir là, une conférence, puis je sais que le petit monsieur s'est trompé, ça n'a pas pris 3 minutes, je l'ai zappé, là je suis plus capable, là je pognais avec mon iPad, je parle avec tout le monde, puis madame, calmez-vous, ouais, j'arrête de parler. Je suis capable de garder le focus. Combien de fois ces enfants-là, les parents vont me dire « Papa a un déficit d'attention quand ils sont Nintendo, 24 heures dans sa tête, ça fait comme 1 minute. En hyperactivation. » Ben oui, si ça nous intéresse, l'hyperactivation est là. Si ça ne nous intéresse pas, on n'arrive pas à garder le focus. On dit aussi on va interrompre les autres dans notre présence, puis souvent on va couper, dans le fond, la conversation. Moi, mon père, comme je vous ai dit, il s'est suicidé quand j'avais 30 ans. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur le suicide. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter le suicide chez mon père quand j'avais 30 ans? Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches et à voir. Un des seuls facteurs prédicteurs contre le suicide, c'est le réseau social. C'est pas pour rien que 24/7 existe. Hein? Tu peux parler à quelqu'un, bien, on peut peut-être avoir des chances de sauver du monde. Fait qu'à un moment donné, au fil des années, je me suis spécialisée beaucoup dans le déficit d'attention. Puis moi, j'ai gagné à l'école, au secondaire, la fille la plus connue de mon école. Maintenant avec les rockers, les nerds, les ci, les ça, c'est drôle, il n'y a pas personne qui m'appelle. Ça veut pas dire parce qu'on est connu qu'on a de l'amitié. Si moi je t'aime, tu ne m'aimes pas, c'est pas de l'amitié, c'est de, que ce soit ces deux bords. C'est à cause d'école, quand j'étais tombée autour de la gueule, puis je travaillais dans les écoles. Je voyais tout le temps que ces enfants-là t'as pris dans le trou. Parce que là, on manotenait dans les affaires des autres, là. Au ballon, on veut gonger. Fait que là, on pogne le ballon, on donne un coup. Qu'est-ce que t'as fait, Marie-France? Je sais pas! Moi, ça, tu donnes un coup de poing, le nez saigne. Non, je voulais gonger, là. Moi, j'étais plus là. J'étais impulsive. On tombe dans toutes sortes d'affaires. Là, on m'a dit, j'ai parlé, comme je l'ai dit, avec mon chum, on en a fait bien de recherches. Puis celle-là, si vous voulez aussi, vous pouvez juste m'appeler. Je peux tout vous télécharger dans le fond, les documents de recherche. On a appelé Santé Recherche Canada et on a dit, est-ce possible de faire une recherche pour voir si quelqu'un qui a un enfant qui a un déficit d'attention versus la relation d'amitié, puis quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention versus la relation d'amitié, on va voir la qualité de l'amitié. Santé Recherche Canada a dit, si ça n'existe pas n'importe où à travers la planète, on t'accepte. C'était la seule recherche au monde qui a été faite sur le déficit d'attention versus relation sociale. Quand on a terminé cette recherche-là, c'était une des recherches les plus difficiles à faire et les plus tristes à faire. Parce que le parent devait se présenter à la clinique avec son enfant qui avait un ami. Et là, la mère m'appelait, « Dans la maison neuve, son cousin, peux-tu faire l'affaire? » J'ai dit, « Non, le cousin, c'est pas un ami, madame. Son frère, pourrais-tu faire l'affaire? » J'ai dit, « Non, c'est pas un ami. Peux-tu faire son ami? Là? Je veux vraiment qu'il participe à cet atelier-là, là, cet enfant-là. » C'était l'enfer. La recherche de 1 an nous a duré 4 ans. Quand on a terminé, la prévalence la plus triste au monde, les statistiques sont les suivantes. Lorsqu'un enfant a un déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, vous avez de 50 à 70 % de chances de peu ou pas avoir une belle qualité d'amitié. Puis ça, c'est grave. Parce que l'amitié, c'est un facteur prédicteur contre le suicide, contre le taxage, contre le décrochage scolaire. C'est un facteur de protection, l'amitié. Ces enfants-là, souvent, n'ont pas cette belle qualité-là. Puis pour savoir, dans la façon dont ça fonctionnait dans le projet de recherche, c'est qu'on demandait aux enfants, nomme-moi tes 5 meilleurs amis. Fait que là, mettons, vous êtes ici, là, on vous demande, nommez-moi vos 5 meilleurs amis. Vous écrivez ça sur un papier cachette, là, vous me donnez le papier. Là, après ça, sans le savoir, on va voir ce monde-là, vous avez marqué, mais personne ne le sait qu'on s'en va les voir. Là, on dit, pouvez-vous me donner vos 5 meilleurs amis? Quelqu'un qui n'a pas de suite d'attention, normalement, les 5 targets qu'il a mis en haut, là, ben, c'est chum ou pas, ils ont nommé aussi. Quand on a des suites d'attention, des fois, on espère se faire aimer. Puis ceux qu'on a mis, bien souvent, on n'est pas dans leur liste. C'est très important, l'amitié. Et là, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que même si ces enfants-là sont médicamentés avec des caisses à pilules, ça ne te montre pas comment avoir des amis. Pour être capable d'avoir des amis, c'est important, dans le fond, d'avoir des programmes. Fait que notre programme vient des États-Unis, qui a été validé, prouvé en empirique. Et on est en train d'aider des centaines de familles présentement. Pour les parents, le programme fait qu'on coach les parents. Et quand le programme va être terminé puis va être validé en recherche empirique comme quoi il est fonctionnel, on va pouvoir aller dans toutes les écoles à travers le Québec et le Canada pour former les enseignants et les institutions comme le CLSC, les gens qui vont travailler avec les enfants, à être capables d'aider les parents à devenir un bon coach d'amitié pour ces enfants-là. Parce qu'imaginez-vous au secondaire, comment c'est des enfants qui peuvent être excessivement influençables. Ben, l'impulsivité, c'est quoi? C'est d'être capable de pas arrêter son propre comportement puis sauter directement dans l'action. On est impulsif. Nos comportements aussi sont souvent à risque. C'est extrême, la vitesse. Moi, la place que je déteste le plus magasiner, c'est au Ikea. Parce que moi, je suis vite, là. Pensez-vous que je vais perdre les instructions? Non, non. Ah ouais, démarche, on va regarder ça. Il me reste tout le temps trop de vis ou pas assez de vis. Hein? On est vite, 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 nous autres. Fait que c'est évident, quand ça demande une réflexion, ben, on a souvent plus de défis que les autres. On a de la difficulté aussi à inhiber ses propres actions, ses propres comportements. On n'arrive pas à arrêter. Souvent, on va sauter dans le travail, même avant d'avoir lu les instructions. Tu sais, une autre affaire, tu sais, les gens disent, ouais, non, en vieillissant, tu dois être moins pire. Bien, je me demande si je ne suis pas plus pire. Parce qu'à un moment donné, j'étais au bureau, puis là, les filles, on a besoin d'un nouveau four micro-ondes. J'inquiète pas, moi, vous acheter ça. Ajoute le four micro-ondes. Fait que là, mon joker, ça sent toujours le plastique. Je vais pas le partir 5 minutes, là, comme ça, ça va enlever ce qu'il y a en dedans. Mais là, je monte en haut dans mon bureau avec tout le système d'alarme part. La boucane en clinique, on descend en bas. J'avais tout enlevé, sauf que c'était marqué veuillez enlever la pellicule de plastique aussi à l'intérieur. Mais moi, j'ai pas lu, là. J'ai sauté ça vite fait, j'ai branché ça, peut-être ligne, j'ai fait sauter mon four micro-ondes. Fait que souvent, ça a des impacts. Des impacts. Puis c'est une de nos caractéristiques aussi. Souvent, on va répondre émotionnellement et souvent aussi, on peut prendre des mauvaises décisions. Combien de mots qui est des fois sorti de ma bouche qu'après ça, je regrettais? Ou des fois, moi, mon chum, comme j'ai dit, psychologue, les docteurs aussi, l'hôpital Montfort, c'est évident quand on va en voiture. Moi, j'ai une clinique, je pose des calmes. Mais moi, si tu me coupes, là, répondre émotionnellement, là, je vais peut-être avoir la mèche de 0 à 100 dans une seconde. Fait que là, je me mets à la fâcher, puis là, j'ai le goût de faire promener mon bras, puis je dis, mais maman, comment? Là, mon chum, il capote. Calme-toi! Je veux que personne ne me voit dans ton char! Là, tu veux commencer à descendre. Parce que souvent, j'arrive pas à réfléchir. Mais après, je me dis, oh, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Mais imaginez-vous l'impact. Mais pas juste là, sur le marché du travail. Je faisais pas mon affaire, moi, qu'est-ce que vous pensez qui se passait? Je la disais, moi, mon opinion. Des fois, avec intensité aussi. Et là, on arrive avec le petit type. Ça, c'est le type qui me fait sortir le plus les veines ici que vous voyez. C'est-à-dire, on a deux grosses veines, là, des affaires. Parce que ça, c'est ma fille. Fait que moi, je suis box volée, vite, 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 comme l'éclair. Et ma fille, c'est la tortue! Imaginez-vous. Fait que là, le matin, moi, je me dépêche, j'ai le temps de m'habiller, faire toutes les affaires, je descends en bas, ils avaient en train de déjeuner. Fin de demi-heure. Là, elle est assise. Là, elle est en train de regarder ses cartoons dans sa boîte de céréales. Sa boîte de céréales. Et puis là, elle est là, puis elle a peut-être 3 bouchées. Elisabeth, dépêche-toi! Maman va être en retard! Puis moi, à l'époque, il fallait que j'aille travailler de l'école. Les élèves vont m'attendre dehors, ça n'a pas de bon sens. C'est des enfants qui traitent l'information plus lentement. Fait que ça, c'est une tortue avec un box-bonnet. Des fois, il y en avait des conflits, hein? On peut s'entendre là-dessus. C'est des enfants, lorsqu'on regarde les premiers symptômes, c'est des enfants souvent qui ne parviennent pas à porter attention aux détails, des fautes d'inattention.
Tu vas demander à l'enfant, comme exemple, Elisabeth, avec le mot lait, qui est un déclencheur du pluriel, la plupart du temps, les mots vont prendre quoi, ma cocotte? Maman, c'est facile, un S! Hey, mon Dieu, qu'elle est bonne, elle est pas faite, c'est 100%. Je vais mettre une situation d'écriture, elle commence à écrire son texte, pas qu'elle soit tout oublié, c'est S! Des fautes d'inattention. Fait qu'imaginez-vous aussi le découragement de ce monde-là. Ils connaissent les affaires, ils n'arrivent pas dans le procédural. Combien de fois ces enfants-là aussi, une de leurs caractéristiques, ils sont souvent désorganisés. Écoutez, moi, quand j'ouvrais la porte là, du casier de ma fille au secondaire, il y avait des pommes qui marchaient tout seules, là. À la papaye, là. Avec des feuilles de papier, des ci, des ça. Puis je disais, ben, il est là le trou. Comment ça fait que tu as mis tes affaires en haut? Puis elle disait, maman, j'ai jamais eu cette feuille-là, j'ai jamais eu ci, j'ai jamais eu ci. Quand j'ai ouvert son casier, si on n'aide pas nos enfants à s'organiser, ça va être un enfer. Puis moi, je vais prendre le temps de vous parler. Parce que les choses aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous dis, c'est un clin d'œil. Je pourrais vous donner un autre cours de 45 heures, comment on peut aider nos enfants à la maison, ou même en milieu scolaire, à être mieux organisés. Parce que si tu es organisé, tu as au moins tes outils pour commencer. Bon, on a même plus de chances de les faire réussir la classe, d'avoir des taux de réussite. Fait qu'aujourd'hui, on va faire des clins d'œil parce que ça, souvent, on a tendance à les chicaner. T'es désorganisé, ou les professeurs vont dire, t'es désorganisé, t'as oublié tes affaires. Puis là, on chicane. Non, je ne calme pas ces enfants-là, là. Le mandat d'un parent ou le mandat d'un enseignant, c'est de dire, il est désorganisé, bravo, qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Ça, c'est un déficit qu'on appelle cognitif, le déficit d'attention. Pas juste qu'il part dans l'une. Le déficit cognitif, la désorganisation, est importante. Vous avez un petit livre. Puis les livres que je vous présente, il y a trois conditions pourquoi je vous présente ce matériel-là. On est les seuls au Canada qui a été avec nos chercheurs en neuropsychologie, parce qu'on a des neuropsychologues chez nous à la clinique, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des orthopédagogues. On a choisi, dans le fond, le meilleur matériel pour remplir un déficit cognitif. Exemple, on va vous comparer ça à la médecine. S'il vous manque une jambe, puis tu as besoin de courir, j'espère qu'on ne te donnera pas une feuille pour boire pour faire ta course. Parce que ton outil ne sera pas bon. On va te donner une prothèse, on va te dire, go, tu pars. Quand on parle de déficit cognitif, on parle, comme exemple, un enfant qui a un déficit d'attention peut avoir de la difficulté dans l'organisation de la planification. Au lieu de chicaner, vous allez aller dans le déficit cognitif ici, c'est marqué difficulté, exemple, de gestion de temps d'organisation. On va donner ça. Toutes les choses sont spécialisées pour l'organisation. Vous avez accès aux outils les plus importants qui vont venir travailler les déficits cognitifs. Tantôt, on va parler aussi qu'on a de la misère à gérer nos émotions, nous autres. La colère, ou bien dans l'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour aider ces enfants-là? C'est pas en les chicanant, c'est en leur donnant des outils, du matériel qui va être spécialisé, puis on va être capable de les aider à surmonter ce défi-là. L'autre chose, c'est comme vous allez voir, c'est pas juste que ça vient remplir un déficit cognitif, mais on s'assure que ça ne coûte pas 15 000 $ pour un livre. Hein? Vous n'avez pas pour vendre un livre, un parent, 15 000 $. Il faut que ce soit qualité-coût le moins cher possible. La troisième chose qui est bien importante, que souvent les parents ne s'en rendent pas compte, c'est que souvent, des fois, il y a du matériel qui va vous être proposé. Là, tu arrives chez vous, il faut un filtre de doctorat pour juste être capable de comprendre ce qui est marqué dans ton super livre. Moi, j'ai des petites attentions. En fait, moi, donne-moi les affaires les plus simples possibles, les plus vite possibles. Parce que quand je me mets à lire, trois minutes après, moi, je suis rendue dans mon week-end. Là, je pense à d'autres affaires, puis là, je reviens. Tout le matériel que je vous présente, c'est un matériel qui est hyper facile d'accès. Fait que ça, ici, tous les parents, tous les enseignants, quand les enseignants sont de l'école, je leur dis, il n'y a pas personne qui ne devrait pas avoir ça dans son coffre à outils. Parce que c'est des choses faciles qui disent. Comment on aide un enfant à organiser sa chambre? Comment on l'aide à organiser son pupitre? Comment on l'aide à organiser son casier? Comment on l'aide à planifier? Un agenda, ça ne parle pas la plupart du temps. Fait que ces enfants-là, s'ils ne savent pas comment organiser des agendas avec des techniques de couleur, ben, ils vont garder leur agenda et ils vont dire, oh, du lundi au vendredi, vendredi c'est congé, je m'en vais chez nous. Le lundi, ils tournent la page, ils regardent ça. Ça, mon Dieu, j'avais un examen d'histoire. Ben, il ne faut pas l'utiliser dans 5 minutes. Parce que plus on monte dans le système d'éducation, plus le contenu pédagogique est important. Puis moi, une des plus belles histoires que j'ai commencé à écrire, puis je vous la lis parce qu'elle est drôle, vous allez voir, on passe par l'humour avec ça. C'est une petite fille ou un petit gars, là, si t'es un gars que t'as dans ta famille, c'est un petit gars, c'est une petite fille, Fait que là, moi, j'ai dit, Isabelle, il y avait ça, on va te conter une histoire, dis-moi, là, qui ça pourrait faire penser? Fait que c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elisabeth, parce que ma fille s'appelle Elisabeth. Elle dit, hey, maman, tu peux-tu m'emmener à la bibliothèque ce soir? Fait que la maman, elle regarde la petite Elisabeth, elle dit, ben, c'est parce que la bibliothèque est fermée ce soir, pourquoi? Ben, c'est parce que maman, j'ai un petit projet à faire à l'école. Fait que la maman, elle dit, Elisabeth, quel genre de projet? Fait qu'Elisabeth, elle dit, maman, elle est pas bien compliquée, là. Elle dit, une recherche sur la Première Guerre mondiale. Nous devons les réunir, écrire un texte, dessiner un champ de bataille, en trois dimensions, maman, et confectionner un costume de soldat. Fait que la maman, elle dit, Elisabeth, pour quand ça? Demain matin, si tu veux. Là, ma fille m'a regardé et dit, ouais, c'est ce que ça fait penser, ça, Élie. Fait que là-dedans, on passe beaucoup par l'humour, par l'impression, on vous donne des trucs, comment aider nos jeunes. Souvent, les jeunes aussi, on va avoir tendance à mettre des tiroirs. Si t'as un enfant déficit d'attention, là, même c'est pas un tiroir. Dis des crochets. Un crochet, c'est plus vite. Ça va être plus efficace. Fait qu'on vous donne toutes sortes de trucs, dans le fond, pour que l'enfant vive aussi des temps de, où il va se sentir aussi interpellé puis motivé. L'autre chose que je vais prendre deux minutes aussi, parce que là, quand je vous parle de prédominance inattentive, parce qu'on est vraiment dans ce trouble-là, une des caractéristiques qui est très triste, c'est que c'est des enfants qui ont beaucoup d'anxiété. Je vous apprends rien quand je vous dis que l'anxiété, c'est comme une bactérie. Ça commence petit, puis si tu ne le traites pas, ça peut te faire sauter au complet. Quand tu arrives à l'âge adulte, qu'est-ce qui peut t'arriver? Troubles de panique. Hein? Là, tu ne veux plus sortir. Des troubles de ci, des troubles de ça. Parce que là, à un moment donné, c'est l'anxiété maltraitée. Il y a toutes sortes de peurs qui vont sortir. Savez-vous qui va payer en bout de ligne? Ben, c'est vos enfants qui vont payer pour ça. Imaginez-vous comment ça peut être dans une vie quand tu as peur de ci, tu as peur de ça. Puis dans une vie, là, il n'a-tu de l'anxiété en partant qu'on ne peut déjà pas contrôler? Tu sais, un jour, tu vas peut-être perdre ta mère, perdre ton père, peut-être avoir un divorce, peut-être avoir un feu, peut-être avoir un accident, tu vas peut-être tomber malade. Déjà dans la vie, là, il y a des situations qu'on ne peut pas rien faire pour l'anxiété. Fait que moi, j'ai deux de mes amis qui sont spécialistes en anxiété. Et la bonne nouvelle, la seule démarche à travers la planète Terre qui fonctionne le plus pour l'anxiété, c'est la démarche cognitivo-comportementale. Si tu arrives à changer tes pensées, tu vas arriver à changer ton comportement, tu vas arriver à réduire ton anxiété. Fait que moi, ce que j'ai demandé à mes collègues, j'aimerais ça que vous écriviez un livre là-dessus, mais quelque chose de facile pour un petit là, de 5 ans jusqu'à un adulte de 95 ans. Parce que la démarche est pareille, hein, ça ne changera pas la manière dont tu vas te parler. Tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, c'est la même démarche. Puis d'ailleurs, de ça, on vous parle du petit plus ou du petit minus. Le petit plus. Bien sûr, je capable, je lâche pas, ma mère est là, mon père, elle dit tout, c'est pas grave, c'est pas comme du monde. Parce que le monde-là, on a tendance à exagérer les affaires. Et là, on dit, le petit plus, lui, il est fun. Il est en jaune, là, on le met sur le frigidaire, ça, c'est toutes les pensées de fun. Le petit minus, ça, c'est le petit maudit, le petit noir qu'elle a. Lui, là, c'est pas capable, il va mourir, ça ira pas bien, il va mettre des tirs. Puis là, on est toujours en train de dramatiser. Lui, tu le fais bien petit sur ton frigidaire, tu le mets bien bas, tu le mets gros, t'es couche à moi. Pour amener l'enfant graduellement à venir comprendre comment ça peut sentir l'anxiété, identifier l'anxiété pour être capable de ça, de réapprendre à se parler. Si tu es un adolescent, là tu vas dire, ouais, là, c'est ça, la bébé, ça c'est de 6 à 12 ans. Prends première page, prends un ciseau, coupe-la, s'il vous plaît. Là, combien, c'est parfait pareil. Et si j'ai des adultes qui viennent chez nous, j'avais combien, moi, d'adultes viennent chez nous, sont tous ces nerfs bien anxieux. Je prends la première page, puis je coupe la page. Mais là, les adultes, ils me regardent, mais es-tu malade d'aller couper son livre? J'ai dit, écoute, tu l'aimes même si tu ne l'aimes pas, là, ben, j'ai dit, moi, je vais te le rembourser de façon intégrale. Bien, ça fait plusieurs années. Il n'y a personne qui me l'a ramené. À l'intérieur de ça, si vous avez des choses à donner en cadeau, surtout pour l'avenir de vos enfants, l'anxiété, c'est vraiment un trouble qui est vraiment paralysateur. Il faut penser à les aider. Il ne faut pas les chicaner. Puis si on fait semblant de rien, on fait l'autruche. Hein, des fois, on fait l'autruche. Oh, ça va partir, ça, en vieillissant. Mais le parent qui fait l'autruche, qui a la tête dans le sable, puis derrière les airs, puis petit dans la rue, le petit a une grosse chance de mourir, de se faire frapper par une voiture, ben non, d'être handicapé. C'est un peu le même principe. Quand un parent ne veut pas intervenir pour être capable de bien accompagner le plus rapidement possible lors des premiers symptômes, combien d'enfants peuvent passer à côté de leur vie? Jusqu'à présent, ça va-tu? Je sais que je vais vite, hein? Mais c'est parce que là, l'autre question, je peux-tu vous garder jusqu'à 10 heures? Parce que ça va tellement vite. Et ceux qui ne peuvent pas, on lève la main. OK, bien écoutez, c'est parfait, on va avoir du fun. OK, OK. Fait que c'est bon. Fait que là, on dit aussi, des fois, c'est des enfants qui ne semblent pas écouter. Tu sais, moi, je parlais à ma fille, là, je donnais des consignes. Là, je sais qu'elle me regardait, mais elle n'était juste pas là, là, en passant son week-end à son cheval ou quelque chose. Elle disait, mec, maman est là! Ah oui, maman, ah oui, maman. Souvent aussi, ça ne confond pas aux exigences ou aux consignes. Parce qu'ils n'ont pas tout entendu les consignes. Fait que là, on a tendance à dire, comment ça se fait? Tu ne fais pas comme les autres. Tout le monde le fait. Puis là, ben, à un moment donné, oh mon Dieu, tout le monde, fait que là, on essaie d'imiter les autres parce qu'il leur manque des morceaux, ils étaient juste pas là. Difficulté aussi à faire ou à terminer les travaux qui sont longs. Ils vont procrastiner.
on piétine. On va remettre à demain qu'est-ce qu'on va pourra faire aujourd'hui. Puis là, on pile. Là, on pile, on pile, on dépile, on pile, on pile. Puis là, quand on est rendu adulte, ben c'est un peu le même principe. Là, moi, je dis à ma fille, fais le ménage. Et là, elle commence à faire le ménage dans sa chambre. Tout d'un coup, elle trouve une brosse à dents. Là, elle part dans la chambre de bain. Là, elle est rendue dans la chambre de bain. Là, elle a pogné d'autres choses en cuisine. Là, je dis, le ménage n'est pas fini. J'ai dit, on fait qu'une bombe dans la maison. Non, non, ménage, je m'en viens, je m'en viens. Fait que souvent, on a tendance aussi à être éparpillé et de la difficulté à organiser les tâches qu'ils veulent faire pour arriver à avoir une bonne séquence. On dit aussi, on a tendance à éviter ou avoir à contre-cœur toutes les tâches qui vont demander un effort mental soutenu. Pourquoi ces enfants-là, on dit qu'ils ne font pas d'effort? Hey, moi, je ne sais pas combien de fois dans les écoles, j'entends ça. Ils ne font pas d'effort, pas motivé, il est immature. Ils ne font pas d'effort. C'est les premiers symptômes qu'on va entendre. Si tu prends un enfant, Russell Barkley, vous allez voir dans ce que vous allez avoir présenté dans la pochette, Russell Barkley a pris 2000 jeunes pas de déficit d'attention puis 2000 jeunes avec des déficits d'attention. Puis là, ils ont donné des tâches plates à faire. Là. Ça ne t'attend pas plus à un groupe qu'un autre. Puis il a pairé des gars avec des filles, le même potentiel intellectuel. On ne voulait pas être intelligent, bien déficient. Vraiment pairé du même potentiel et aussi au niveau du même socio-économique. On ne voulait pas des enfants hyper stimulés, des enfants pas stimulés. Et quand on leur a donné des tâches à faire, la personne qui n'a pas de déficit d'attention, il regarde la tâche. Il dit « Ah, oh, c'est plate. » Il se parle tout de suite. Il dit « Ah, oh, c'est plate, mais je vais le faire, ça ne me tente pas de me faire chicaner. » Fait qu'il anticipe la conséquence. Il dit « Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. J'ai fini, madame! » Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, on se parle pas! Fait que là, on regarde ça et on dit « C'est plate. » Point! Box Bonnet qui vient de passer dans la fenêtre. Oh mon Dieu, as-tu vu une petite mouche qui vient de partir dans les airs? En fin de semaine, tu fais ça? Mais France, où ce que t'es rendu? Ben écoute, je n'ai même pas encore commencé. Fait qu'imagine-vous comment on se fait chicaner. Là, les gens nous viennent de paresseux. Ça, c'est une autre des premières affaires qu'on se fait dire. Aussi souvent, on va perdre les objets. Puis ça, je vous le dis, la grosse différence entre le TDAH et le TDA, c'est la perte d'objets. La perte de lunettes. Tu sais, ma fille, là, vous savez que ça coûte très cher un iPhone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mm-hmm. Si tu n'as un, tu ne le perds pas, ça va quand même bien, parce que tu es capable de pogner belle, puis tu n'es pas obligé de payer. Fait 4 iPhones qu'elle perd cette année. Mais là, elle arrive chez nous en pleurant, maman. À un moment donné, elle a laissé son iPhone sur le top de son char, à porte, ou l'iPhone, bling, bling, la vie tout cassée. C'est l'enfer! C'est l'enfer! Imaginez-vous comment elle arrive des fois, puis qu'elle est anxieuse. Ou des fois, elle m'appelle. Maman, j'ai un examen, là. Sont où mes clés? Je sais pas où sont où tes clés. Maman, mes clés! Elle rentre dans la maison, elle est tellement pris dans sa bulle, elle met les clés quelque part, elle se souvient pas, puis elle repart. Imagine-toi le lendemain quand tu sais pas sont où tes clés. Fait que là, on a dit qu'on va acheter une affaire qui va être électronique, au moins peser dessus, savoir retrouver tes clés. Souvent aussi, ils vont se laisser distraire, puis ça, c'est triste, parce que c'est des enfants qui vont partir par leurs propres idées. Sont assis et sont des esclaves de leurs stimuli. Ils partent avec leurs propres pensées, mais ils partent aussi avec les stimuli externes. Ma fille, elle dit, tu sais, maman, durant l'examen, j'entends même le tic-tac de l'horloge. Je dis, Elisabeth, focus sur le test, là. On laisse tomber. Ou elle dit, maman, tu sais, l'ami, là, j'entends sa chaise bouger. Fait que même les stimulations externes les dérangent. Imaginez-vous les efforts qu'ils font d'une journée. Quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention, il donne à peu près 80-85% avec des bons résultats. Si tu as un déficit d'attention, tu donnes à ta journée 100-150 d'efforts parce que là, tout te stimule. Tu te fais chicaner, l'estime de toi-même, tu arrives chez vous, tu es brûlé. Et là, on dit non, on n'a pas fini. On va faire de l'overtime. Et là, on va faire des devoirs à l'élection. Imaginez-vous sans même pas payer. Fait qu'imaginez-vous des fois comment ça peut finir en pleurs, puis en larmes, puis en toutes sortes d'affaires. L'autre chose aussi qui est très importante, comme on a dit, les oublis aussi sont importants dans leur vie de ces enfants-là. Des enfants qui vont avoir tendance à traiter l'information plus lentement. Moi, dans les plans d'intervention, on disait, Marie-France, c'est l'examen d'une heure. Tu n'as pas le choix d'amener ton examen avant une heure. Parce que moi, après 3 minutes, fini le lendemain. C'est impossible comme tous. Fait que moi, dans mon plan, c'est marqué, toi, Marie-France, c'est une heure, puis tu ne me ramènes pas avant une heure pour claquer un peu mon activité. Ma fille, elle, c'est le contraire. La tortue. Fait qu'elle avait besoin de plus de temps. Fait que c'est pour ça, dans les plans d'intervention, il faut adapter les mesures. On dit aussi difficulté à filtrer les distractions. C'est évident, ça fait partie aussi de leur trouble. La super bonne nouvelle, le DSM-4, c'est un livre de critères pour les diagnostics. Quand tu as un trouble d'apprentissage, quand tu as le TED, quand tu es en dépression, quand tu as toutes sortes de troubles mentaux,
C'est là-dedans que les médecins vont aller chercher les critères pour être capables de poser des diagnostics. Dans le DSM-4, dans ce livre-là qui était à l'époque, qui avait sorti en 1994, on disait que le trouble déficitaire d'attention est un trouble de comportement. Ce qui veut dire que c'était la faute de l'enfant, la faute du parent qui a mal élevé son enfant. C'est pour ça que dans les écoles, on peut être plein d'interventions pour ces enfants-là. Le ministère, tu ne peux pas prendre ça en considération, c'est un trouble de comportement que tu fais par exprès. Il était mal élevé, ce petit-là. Regardons, sa mère, elle l'a garoché, elle a lancé ses meules. Fait que là, les gens ne faisaient rien avec nous autres. À part de nous faire sortir de la classe, puis nous expulser, puis nous dire toutes sortes de noms stupides. Aujourd'hui, le DSM-5 vient de sortir, est sorti cette année au mois de mai. Savez-vous ce qu'on dit? C'est un trouble neurobiologique, au même titre qu'un trouble d'apprentissage, que le TED, que l'autisme. Ça va faire toute la différence. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va être obligé d'être pris en considération. Un élève qui est dyslexique d'une classe, là, inquiétez-vous pas, la commission scolaire va s'en occuper. Elle est obligée par la loi de mettre des mesures puis des plans en place. Si l'enfant est autiste, il faut regarder si on a une équipe école pour être capable de répondre à ce besoin-là. Un enfant qui a un trouble de langage, pas capable de comprendre ou de donner le langage comme il faut. On va le mettre une clause de langage. Il y a des services, on n'a pas le choix. Mais présentement, la bonne nouvelle, c'est que quand les enfants vont avoir un diagnostic de déficit d'attention, les écoles ne pourront plus vous dire, on n'a rien à faire. Ils vont être obligés d'intervenir. C'est-à-dire que si l'enfant est désorganisé, on ne marquera pas, « Madame, votre enfant est désorganisé. Madame est partie dans l'une 14 fois. » Mais là, on va mettre des structures. L'autre chose que je veux vous dire, je vais revenir à votre question, c'est que souvent, moi, je forme tous les enseignants à travers le Canada. La dernière fois, on avait 3200 étudiants, 3200 profs. Là, je dis au professeur, est-ce que vous connaissez le déficit d'attention? Oui! Là, je dis, ah ouais! Je suis pas une micro, vous êtes toute une gang de menteurs, ou presque. Je me faisais 5 minutes que je me commençais à comprendre. Allez, t'as pas de bonne humeur. Là, tu passes à la veuve de la matin. Je dis, regardez-moi vous montrer comment vous ne le savez pas. Si, exemple, vous connaissez le rhume, puis moi, je suis une petite fille qui rentre dans la classe. Bonjour, madame, j'ai un diagnostic. Mon diagnostic, c'est le rhume. Là, je m'assieds dans ta classe, là, je commence à moucher. Mais cool, là, je fais de la fièvre, fais pitié. Tu vois, tu me dis, hey, ma petite écœurante, sors le voir, mets pas toi la face, tu fais du rhume à faire mal au cœur. Pas de la classe, pour moi, le directeur, tu m'écœures. Jamais qu'un professeur va faire ça. Le professeur m'a regardé en me disant, dans un mais non, on ne fera jamais ça. Les symptômes du rhume, c'est ça. Le nez coule, madame Maisonneuve. Tu fais de la fièvre, tu ne vas pas bien. Fait que là, je leur demandais, qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants-là? Bien, on va laisser plus de temps. Écoute, va prendre de l'eau, toi, là. Et quand j'ai des climettes, ça, tout le monde donne. Et dis-le pas, t'as mis, je t'ai même acheté des petits os. Prends ton temps, là. On voit des symptômes. Tout le monde est d'accord avec ça? Comment ça se fait que les profs, vous pensez être spécialistes? C'est ça ce que je leur disais. Pourquoi d'abord un enfant en déficit d'attention, tu vas marquer à la mère? 14 fois aujourd'hui qu'il est parti dans l'une! Oh, il est désorganisé, madame! Il est arrivé dans son cahier, dans son cours de français, avec son livre de maths! Oh mon Dieu, il est arrivé en retard, madame! Mon Dieu, qu'il est là! Madame, il est immature, cet enfant-là! Mon Dieu, qu'il est paresseux! Non, non, on voit bien là, qu'il ne s'active pas! Hé, hey, madame, quand ça tente, il est capable, mais quand ça tente pas, il ne s'embarque pas! Ce sont les déficits, les symptômes du déficit d'attention. Fait que si tu es si spécialiste que ça, tu n'es pas supposé chicaner. Tu es supposé trouver des outils sur l'anxiété. Tu es supposé trouver des choses en planification. Tu es supposé de développer des techniques visuelles. Tu es supposé de l'aider dans le timing parce qu'il n'arrive pas dans le timing. Tu es supposé de l'aider. Pas de chicaner les symptômes si tu es spécialiste. Ben, je vais vous dire que moi, le professeur, une amoureuse à la pause, je me disais. Je pensais que je savais c'était quoi. Quand on a un déficit d'attention, ce n'est pas juste des symptômes, c'est aussi des déficits cognitifs. Là, normalement, si on ne comprend pas la condition, on a tendance à blâmer. Puis moi, je vais vous dire, quand j'étais arrivée en troisième année de primaire, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, moi, je vais m'appeler Nadine. Là, ma mère a dit, c'est ça, Nadine. Je choisis ma France, puis c'est beau, là. Marie, c'est la goutte d'eau, puis la France, c'est la liberté. Je lui dis, c'est le pire nom du monde entier que tu m'as choisi, puis j'ai vraiment été vraiment niaise. On va dans ma chambre, on va aller là-bas. Elle a maman, elle dit, c'est ça. Je suis ma fille, Nadine, tu sais, franchement. Fait que là, je suis sort du sac. Fait que j'ai dans ma main, je lui dis, tu sais, Nadine, là, je lui dis, je te joue de l'école. Je
enseignante, elle l'aime. Elle veut jouer dans le coffre au trésor. Elle était si en avant. Elle va faire des commissions. Elle fait tout. Moi, l'enseignante, elle m'assit dans le fond, toujours en train d'aller voir la directrice. Je lui dis, maman, je le vois dans ses yeux qu'elle m'aime pas. Sa parent, le matin, il me regarde, le sourire, il tombe d'en face.
Troisième année, j'avais 8 ans. J'ai voulu me suicider.
Fait que ma mère, toute la panique, ça se fait pas 8 ans, elle veut pas. Elle m'amène sur le psychologue, puis à l'époque, on parlait pas ben du déficit d'attention, mesdames et messieurs, hein? T'es soit ta tête niaiseuse, une nervée excitée, c'était pas comme ça qu'on disait. Là, ma mère, elle dit, ça se peut pas, elle dit, la fille est brillante, il faut faire quelque chose. Fait qu'on voit le psychologue, et puis là, elle va toujours me souvenir parce que mes oreilles sont très bonnes, inquiétez-vous pas, on n'a pas de problème d'oreille, hein. Souvent, les parents disent, mon temps, on brosse les dents, fais tes cheveux, mets-moi ton lit du soir, parce que je suis 4 mois de une histoire. Ça, je vais l'oublier, tout le conseil. Mais c'est des petites affaires qui sont importantes à propos de moi, que t'as pas, mes oreilles sont parfaites. Fait que le psychologue dit à ma mère, inquiétez-vous pas, madame, à cet âge-là, elle peut pas avoir de méthode pour se tuer, elle est trop jeune. Elle dit, regarde bien ça, madame, ça marche pas, vous allez voir. Et là, je m'assis sur un gros banc en cuir noir. Et là, je m'assis devant le psychologue et je le regarde. Et là, je dis, ah, oh, ouais, ça va pas bien. Je dis, non, ça va pas bien. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Je dis, moi, j'ai eu ma vie, puis je dis, moi, je veux plus vivre. Je dis, tout le monde me rit de moi. Puis j'ai dit, professeur, il me met. C'était dans une vieille école, hein. Là, ça sentait, il me mettait à côté de la toilette, ça sentait la fille. Inquiétez-vous pas, je suis en papier, 100%. Mais le monde m'a tellement les pipis. Imaginez-vous l'impact que ça a eu dans ma vie. Et là, tout le monde m'agaçait. Elle dit, je suis alisée de mon école. Fait que moi, j'ai dit, je veux mourir. Fait que le psychologue, il dit, ben, voyons donc, à ton âge, je dis, comment tu veux faire ça? Puis, tu veux le savoir? Je dis, oui, j'aimerais ça le savoir. Moi, mon père, c'est un chasseur. Mon père, c'est un TDA, je suis sévère. Fait que lui, il m'avait en chasse, partir dans le bois. Puis, moi, ça faisait longtemps qu'on avait montré à tirer du 12. On avait un chalet, on a une ferme. Fait que moi, j'ai dit au psychologue, c'est pas compliqué, première clé en haut dans son tiroir, de ses bobettes qui sont là. Là, on va descendre dans le garde. Là, mon père, il a, c'est pas en même place, la clé, puisqu'il a son coffre. Là, je vais pogner ça. Puis si je vais voir les boulettes, c'est dans le garage que je vais aller chercher ça. Et le psychologue, il ne parlait plus. Là, j'ai dit au psychologue, oublie pas. J'ai dit, toi, t'as l'air un gars de ville. Mais j'ai dit, si t'enlèves pas, j'ai dit, ma sécurité. J'ai dit, tu ne pourras pas te tirer. Je suis vraiment, tu l'enlèves. Il n'y a plus personne qui parlait, y compris le psychologue. Ma mère a commencé à faire des recherches. Je ne sais pas si vous connaissez Jeannette Bertrand. Son fils, Martin Jeannette, il est dyslexique, dysorthographique, déficit d'attention. C'est Jeannette qui a fait beaucoup de recherches, qui a accompagné son enfant. Mais ma mère est un peu comme ça aussi. À l'époque, elle a commencé à faire des recherches. Elle a dit, voyons, non, ça ne se peut pas. Il faut qu'on trouve ce que ma fille a là. Puis quand on a pu trouver ce que j'avais avec ma condition, puis on a pu mettre des moyens en place, je peux vous dire que ça a changé ma vie. Puis pas changé de 0 à 2, là, de 0 à 300. Parce que quand j'ai su ce que j'avais, j'ai été médicamentée, là, j'étais capable de rester assis en classe. J'étais capable d'avoir le focus. Puis là, au lieu d'avoir 12%, la fille la plus niaiseuse de l'école, bien là, c'est drôle, j'avais des 98%. Là, le monde, ils vont dire, ben oui, elle exagère, mais non. J'ai un potentiel intellectuel dans la moyenne supérieure, mesdames et messieurs. Mais mon déficit d'attention était tellement grand que je n'arrivais pas à bout d'être capable de présenter quelque chose qui avait du bon sens. Ça me venait tout dans ce fond de noircir mes cartes. La fait que je me suis fait médicamenter, ça ne m'a pas donné d'intelligence, sans conseil, elle ne pensait pas ça, là. Hein, tu médicamentes un enfant, part de 12 à 92, 98, et là, mais mon déficit d'attention était tellement important que j'ai pu réussir ma vie. Fait que souvent, quand on ne prend pas le taureau par les cornes, j'aurais pu finir comme ma cousine dans la drogue, parce que je ne m'aurais pas rendue au secondaire régulier, là, si je n'avais pas été médicamentée. Je m'aurais retourné une classe spéciale. Vous êtes d'accord avec moi? Ma cousine est allée dans le cheminement particulier continu. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ça veut dire placer au secondaire. Ma cousine était plus brillante que moi-même, plus intelligente que moi-même. Mais elle, ma tante, a dit non, 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 puis elle est après dominance attentive, fait qu'on dit on ne fait rien. Fait qu'elle s'est retrouvée dans une classe spéciale, commençait à fumer du pot. Elle est tombée dans le coke, dans les robins, dans le crack. À 40 ans, je suis allée l'enterrer. Puis ma tante, elle me dit, parce que quand moi je me suis fait médicamenter, moi je viens d'une famille de pauvres, où il y a des sans carton les murs, hein. Puis là, ben moi je vois ma cousine préférée, Anne. Puis là, ma mère a dit à ma tante, je suis assez contente, j'ai trouvé que c'est ma référence à là. Mais encore tout le monde regardait ma mère, elle m'a dit, moi je n'étais pas normale. J'ai dit, le monde de la même fois me voit dans ma propre famille, là. Le monde vous emmène la poire, va peinturer les chats, va faire quelque chose, ça a fait, on va pas dans la face. J'étais à ce point-là, là, je veux dire, le début dans la face des gens, là. Fait que là, ma tante a dit, tu dois droguer ta fille! C'est que! Elle pointe Anne, ma cousine, là. J'étais petite, là. J'étais en troisième année, là. Elle dit, plus jamais tu vas venir avec ma fille! Et puis là, ma tante, à part, elle saute. J'ai jamais pu revoir ma cousine de ma vie.
jusqu'à son enterrement. Fait que moi, le lendemain, ma mère, elle disait, ma France, elle dit, on va te médicamenter. Elle dit à ma mère, avec mon tour de position, t'es dégueulasse! Tu veux-tu me droguer? Et là, j'étais à Hawaii. Et là, moi, je cliquais, ah ouais, pis t'es. Et ma tante, elle le dit, là, je peux plus me tenir à calme, puis tu vas me droguer, puis elle me le dit. C'est exactement comme ça que j'ai réagi. C'est vous ce que ma mère m'a dit? C'est vraiment vrai. Ma mère, Lénine, et ma grand-mère, elle avait un accident. Elle jouait du piano, elle faisait de la claquette, elle dansait proactive extraordinairement. Elle nous recevait toutes les années à Noël, jour de l'an, les affaires à la base. Mais ma mère, elle me dit, ma mère Lénine est diabétique. Je dis, oui, je sais, ma mère, on le sait tout. Dans l'ancien temps, quand tu es diagnostiqué diabétique et que tu n'as pas traité avec ton insuline, tu creves. Je te dis vraiment, tu meurs. Quand elle monte, il n'y a rien, tu meurs. Elle dit, gars, ma mère, elle, quand je suis à la danse, c'était avec nous autres, ça fait des années, même avant du gâteau, elle nous joue des petits tours. Elle dit, puis quelqu'un, quand ma mère est assise dans la cuisine, puis qu'elle explique, hé, hey, tu vas droguer de grand-mère, toi, tu es en train de s'appliquer encore aujourd'hui. Et je dis, non, ma mère, c'est pas ça, on va même avec elle à la pharmacie, on l'a dit ça. Bien, c'est le même principe avec toi, mais les gens sont dans des années-lumière en arrière qui n'ont pas compris. La journée que j'ai pris ça, parce que moi je crachais tout ça, je ne voulais pas, j'avais peur. Ça ne veut pas dire que c'est tous les enfants qui soient médicamentés, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire que ceux qui en ont besoin, ne font pas l'autruche. Parce que la seule personne qui va partir, c'est pas toi que tu l'as fait de ta vie. C'est le jeune. Quand ma cousine Anne est morte, puis je vais vous le dire, puis ça vient toujours me chercher. Quand elle est décédée, je suis allée à son enterrement. Et puis je me suis mis à côté de son cercueil pour dire un dernier adieu. Et ma tante est arrivée, elle allait pousser notre maman. Dans le ciel, c'est même qu'elle perte. Je suis pas un don, ma tante, elle se met à capable, on va parler de vie, c'est un barreau, c'est le truc, et là, ma tante, non. Elle nous a poussés, elle s'est mise à capable. Puis elle a regardé notre maman, elle dit, je m'excuse. Elle dit, j'ai tué. Elle dit, si j'avais écouté, si j'avais été d'un fond plus proactive, probablement que ma fille aille sa peau. Parce que c'est évident, quand elle a arrêté dans une classe comme moi, d'enrichissement, moi je suis rentrée dans une classe de sport-études, ben, je t'abonne, je t'habite, toutes les enfants. Anne, elle m'a rabattue. Elle a arrêté dans des classes, c'était brillante, cette femme-là, là, brillante. Mais souvent, quand on ne prend pas le taureau par les cornes, ou on fait l'autruche, ça c'est un des cas, je vous parle là. Moi, ma famille, c'est l'enfer. Mon cousin de 15 ans, tombé dans la drogue. Puis à l'époque, lui, au lieu de prendre du boîte, il avait ça prendre de n'importe quelle autre affaire, mais graduellement, lui, tu es tombé dans la poudre. Ben, ligne de poudre, là, quand tu es d'une famille de pauvres, ça prend pas de temps que tu fais des dettes. Fait qu'il est arrivé chez eux, puis à Hall, c'est toutes des petites maisons à la limite, hein, rangées. Tu ouvres la porte, tu montes en haut, au bout de ça, tu as le corridor pour aller dans la cuisine salon. Ben, il s'est retrouvé avec des grosses dettes de drogue, il écrit une lettre à sa mère. Il a pris le gun à son frère de 18 ans, puis s'est tiré. Mais ta minute sur c'est une affaire. Son frère de 18 ans est arrivé, puis sa mère, elle disait tout le temps, c'est ton gun, ton petit frère va le prendre, c'est ton gun. Quand il a vu que son frère s'est tiré, il n'y a plus de fusil qui s'est tiré. Ma tante est rentrée à Pierre-Genet, l'hôpital, et je l'ai sorti. Puis elle était attachée, parce que très fois qu'on l'a détachée, elle avait soulevé. Là, le monde m'a dit une famille de fous. Mais non, gang, je vais juste vous le dire, une autre famille de très, très brillants. Même ma famille est gravement atteinte du déficit d'attention. Vous allez voir tantôt les slides, comment ça peut être dramatique si on n'a pas de prise en charge. Si on regarde aussi, jusqu'à présent, ça va-tu? Il nous reste à 15 minutes. Êtes-vous correct?
Oui. Okay.
Si on regarde, qu'est-ce que nous autres, on a de différent des autres? C'est nos fonctions exécutives qui sont atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas notre intelligence. Tu mettras n'importe qui à côté de moi. Exemple, mon John, qui est docteur, il n'a pas de déficit d'attention, je suis aussi intelligente que lui. Mon intelligence, elle est intacte. Par contre, j'ai une mémoire de travail qui est atteinte. Ça veut dire que si tu me donnes trop de consignes à l'oral, monte en haut, brosse les dents, mets tes cheveux, mets-moi ton lit, tout ça, parce qu'en la carte, monte une histoire, je monte en haut, boum, j'ai tout oublié. C'est comme si j'avais un panier des trous dedans. Puis nous autres, à la clinique, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, on vous donne des outils en neuropsychologie scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là? Imaginez-vous quand ils arrivent à l'école, ils n'ont même pas fini de lire le premier paragraphe, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont lu. Il faut leur donner des outils. Fait qu'à la clinique, on a développé, on est les seuls au Canada. Vous allez voir que dans 10 ans, vous allez dire, hey, la madame, elle avait dit ça dans 10 ans. On est 10 ans en avant sur le monde. Toutes nos recherches viennent des États-Unis. Et nous, on a travaillé pour développer des techniques d'ancrage. S'il y a des gens que ça l'intéresse, sur notre site, on a gagné un des meilleurs prix internationaux pour le site au niveau des troubles d'apprentissage, du site d'attention, des outils qui sont gratuits pour les parents et les enseignants, pour tous les gens à travers la planète, et vous avez le volet aussi adulte. À l'intérieur de ça, vous avez des outils technologiques, vous pouvez aller sur mon site, vous cliquez zone vidéo, vous avez tous les outils gratuits, c'est-à-dire que vous allez tous voir les vidéos gratuites pour aider les parents à mieux comprendre les conditions. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources juste à l'intérieur de mon site. Vous allez avoir des endroits vraiment extraordinaires au niveau des ressources. L'autre chose qui est importante, comme je vous ai dit tantôt, je vais vraiment m'assurer de vous en parler, je vous ai équipé, je vous ai donné, si vous faites l'école à la maison, pas toujours facile, tout coûte cher. À un moment donné, si on n'a pas toujours de sous, on vous a laissé aussi des sites internet. C'est gratuit pour vous autres. Comment faire pour aider un enfant qui est au primaire, au secondaire, en lecture, en écriture? Bien, vous avez toutes sortes de sites que vous allez être capable d'aller naviguer, puis des bons sites pour aller chercher des recherches par rapport à ça. Moi, à la fin de la journée, je vais vous demander de m'évaluer. Les idées. Donc, si vous m'évaluez et vous me donnez la feuille, en bas, c'est marqué tirage. Donc, si vous marquez votre nom, à la fin de la journée, je vais faire tirer, dans le fond, le champion de l'organisation. Je vais vous faire tirer aussi les 100 trucs pour développer une relation positive avec vos enfants. C'est ce que je vais vous faire tirer cet après-midi. Pourquoi? Bien, c'est important pour moi que vous me dites si vous m'avez aimé, j'ai besoin de connaître mes bons coups. S'il y a des choses à améliorer, c'est important aussi que je sache. Et si vous voyez ici à la fin, c'est marqué « Est-ce que vous voulez vous abonner à l'apprenti? » Savez-vous c'est quoi l'apprenti? C'est dans le fond, c'est des recherches qu'on va vous donner à tous les 3 mois, tous les 4 mois. Toutes les nouvelles recherches sur des nouveaux programmes, des recherches sur la mémoire de travail, des recherches sur le déficit d'attention, des recherches que l'on est en train de faire au niveau de notre programme de coaching parental. Fait quand vous êtes abonné, c'est vraiment pour vous donner des recherches à la fine pointe sur ce qui existe présentement en éducation au niveau de l'attention aussi. Fait que si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire. Souvent, les parents disent « Oui, Marie-France, mais où je peux me procurer toutes ces feuilles-là? » Sur le site, on a une boutique en ligne. C'est 25 $ pour toutes ces feuilles-là. Et ces feuilles-là, ce sont toutes des rappels, des techniques mémiques pour venir pallier au niveau de l'apprentissage chez les enfants. Et ce sont des techniques de la prématernelle jusqu'en secondaire 1 où on peut aider le parent à venir pallier pour aider au niveau de certaines stratégies par rapport à ça. L'autre chose qui est importante aussi, ce que je vais vous faire tirer, ceci-là, c'est extra, extra, extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez Danny Beaulieu. Danny, c'est un grand chum. On travaille ensemble. Enfin, là, on va faire des cartes sur le TDAH pour les parents et les enfants. C'est une des plus grandes sommités au niveau de la psychologie. C'est la gourou, qu'on peut dire, dans tous les domaines, autant psychologie que l'éducation. Et souvent, ce qu'on dit, c'est quand on vient au monde, puis à un moment donné, on grandit, puis on a des enfants, puis on est rendu parent. On n'a pas eu de livre pour dire, voici le meilleur parent, pas le parent 101. On n'a pas eu de livre pour savoir comment on doit, dans le fond, intervenir avec nos enfants. La plupart du temps, si je vous demande dans votre tête, les personnes que vous avez aimées le plus dans votre vie, je suis certaine qu'ils vous ont fait rire un peu. Ce ne sera pas le genre de personne qui va rentrer en quelque part et dire, ouais, mon, on va faire ça, et ça vous dit, votre bide, s'il vous plaît, hop, m'enlève vomir un peu. Mais non! Les gens que vous avez aimés, c'est les gens qui vous ont fait rire, qui vous ont embarqué, qui vous ont donné ce petit côté-là. Souvent, ce qu'on disait quand on est parent, puis je vous mettrais un détecteur de rire invisible. Tu sais, dimanche soir, vous passez chez nous, là, je vous plug un détecteur de rire, puis là, à un moment donné, vous arrivez, là, le dimanche soir commence. Le dimanche soir, on dit aux petits, « OK, tout le monde s'accouche, je vais à l'école, là. Ah, sinon, tout le monde se lève demain matin, let's go, là. On fait l'école à la maison, let's go, faut que tout le monde à l'école, là. On se calme les nerfs, là. Touche pas à ton frère, là. Hey, arrête de taper, là. Hey, dépêchez-vous, allez, vous prenez votre lunch. Lundi soir, on va pas se coucher trop tard, let's go, on se couche, on se lundi, mardi, mercredi, jeudi, mardi, on est épuisé, là. Le week-end, t'as vu, c'est vrai, on a des activités. Calmez-vous un peu, les petits, là. Combien de fois on est dans des conditions où on va réprimander, où on va contrôler, où on va descendre les affaires, où fais pas ci, fais pas ça. Combien de fois? On oublie souvent de développer des communications qui sont positives. Plus vous allez être près de vos enfants, plus vous allez être capable de faire la différence. Plus vous allez être loin, plus l'adolescence va être un enfer. Regardez, je donne un exemple bien facile. Si je vous dis qu'une grand-maman de 90 ans qui est morte à Montréal s'était fait écraser par un train, vous allez dire, mon Dieu, c'est triste. Mais la vie continue. Mais vous ne la connaissez pas parce qu'elle est loin de vous. Si la mère de la maman, c'est la vôtre, tu dis, t'as loin, t'as grand-mère, t'as pas besoin. Plus tu es près de quelqu'un, plus tu as un pouvoir et une influence sur cette personne-là. sais, quand on arrive à l'adolescence, toutes les valeurs qu'on a données à nos enfants, après ça, à l'adolescence, ils se les mettent à dos. Là, moi, c'est ça. Alors, l'instant, c'est ça. Donc, on peut le faire. Souvent, on arrive, on essaie d'utiliser la même façon. Au primaire, là, de la façon que tu fais intervenir avec ton enfant. Elisabeth, maman, veux-tu dire bonjour à la madame?
Bonjour, madame!
Elisabeth, maman, veux-tu aller à la salle de bain, là, maman, veux-tu laver tes mains? On va le faire. Elle écoute les consignes. Ils sont plus malléables, nos enfants, vraiment. Fait que la technique est spéciale, qui est bien facile, normalement. Mais quand tu arrives au secondaire, c'est là que les veines sortent, ici, de chaque côté. Et ma fille est spéciale là-dedans. Fait que si on n'a pas des outils comme ça pour vous aider, parce qu'à l'adolescence, il faut absolument passer par l'humour. À l'adolescence, il y a 7 pièges qu'un parent ne veut pas qu'il tombe dedans. Si vous tombez dans ce piège-là, votre enfant va vous piéger. Et l'autre chose qui est super importante, si j'avais la possibilité de voir vos boutons, moi je dis que c'est ça les boutons. On a des boutons psychologiques à la dimension. Moi, ma fille, là, elle me disait à moi, elle n'avait pas un bon comportement le matin. Là, j'ai dit, écoute, tu fais 8 heures, tu couches, mais elle n'était pas fine. Elle a 8 heures encore. À 7h30, c'était encore 7h. Fait que là, le soir, j'arrivais. Là, j'ai fait le temps de coucher. Voyons donc, tu t'occupes de tous les enfants de la planète Terre. Tu n'es même pas capable de te laisser dehors avec toi, je ne te vois jamais. Ça n'a pas de bon sens. Mais, hey, moi, je me capotais. Culpabilité. Oh, non, non, c'est petit. Non, 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 on reste couché. Je suis à 10h30 à soir. C'est ça que je disais à ma fille. Continuons avec ce comportement-là. Maman va me laisser le feu vert. Parce que je n'étais pas consciente de mon bouton. Moi, mon chum est psychologue. Mon premier mari, c'est un Allemand. Et j'ai eu ma belle-fille, Elisabeth. Et quand j'ai eu Sébastien, qui est mon conjoint, qui est psychologue, la première chose que ma fille a faite, elle t'a rentré dedans. Là, il a dit, « Hey, toi, t'es pas mon père! » Sébastien, psychologue, doux comme un père, connaissant très bien ses boutons, il dit à ma fille, il dit, « Oh! » Il dit, « T'as tellement raison, Elisabeth, là. » Il dit, « J'aurais tellement été fière d'avoir une belle fille comme toi. Tu sais comment t'es belle, t'es brillante, t'es super! » T'as vraiment raison. Il dit, « C'est vrai que t'as raison. J'ai pas cette belle chance-là, mais j'aime tellement raison. » Pensez-vous que ma fille l'a écœurée une autre fois? Ça finit de là! Parce qu'il connaissait ses boutons. Un parent qui est un adolescent et qui peut connaître ses boutons psychologiques, mais tu vas moins tomber d'ingrat. Parce que souvent, il essaie de nous chercher, ces enfants-là. Fait que ça, c'est toutes sortes de trucs qu'on vous donne. Comment passer par un mot aussi pour aider nos jeunes à être capables de mieux avoir des relations positives. Parce que l'adolescence, c'est une période qui est fragile et ils ont besoin de vous autres. Les jeunes, ça, c'est évident pour mieux les gérer, les guider. On continue. On a de la difficulté aussi, des fois, à s'exprimer dans un langage soit écrit ou à l'oral. Moi, là, quand je suis bien excitée, je me promène du coq à l'angle. Fait que là, des fois, je suis dans des rencontres, tout mon personnel est là, puis ting-ting-ting-ting-ting-moi. Là, je dis à tout le monde, suivez-moi, suivez-moi. Il est pour dire, oui, on tue. Et là, on se promène sur la mer. Mon frère, c'est le contraire. Hein, la prédominance attentive, il faut la le craquer. Elle commence son histoire. Ben oui, le frère, dépêche-toi, là. Imaginez-vous, là, la soirée, nous autres, chez lui, à table. Moi, mon frère, 2 TDAH. Ma mère, mon frère, 2 TDA. Les tortues, avec les bords du bonnet. Elle, on en a tué. Fait que souvent, quand on arrive pour écrire, on déteste écrire. Parce qu'on a les idées, mais on n'arrive pas à les organiser, on n'a comme pas de contrôleur. C'est certain, c'est un défi, l'écriture. Moi, ma mère, elle me dit, on écrit. Mal au cœur! Il y a des gens qui sont prêts. J'aime pas ça. Parce que l'organisation de mes idées, c'est la plus difficile. Organiser l'espace, le temps, c'est un défi pour nous autres. Pour ça, le time timer est super important. Le time timer, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, moi, je vais vous dire que quand j'utilisais ça, on a arrêté la négociation. Souvent, moi, je disais à ma fille, dans 15 minutes, tu t'en vas te coucher. Fait que là, tu peux écouter ton film, dans 15 minutes, tu vas te coucher. Fait que là, je dis à ma fille, la grande aiguille est à 11. Quand elle va être à 2, c'est temps de coucher. Fait que là, quand j'arrive à 2, tu vas te coucher. T'es menteuse, t'as pas à 2, tu m'avais dit, me semble, là. C'est certain, il y a déjà tout oublié, déficit d'attention. Fait que là, t'es menteuse, tu vas te coucher tout le monde. Il y en aurait-tu de place, il a chuté la famille. Le matin, ça allait pas bien, le soir, ça allait pas bien. Je dis, écoute, ben, tu vois-tu la petite bandelette rouge? Pas de tour. Quand il n'a plus, c'est fini. C'est fini. Le matin, à 6h, je vais voir le céréal dans par terre. Elle ne savait plus. Écoute, tu as 5 minutes, tu vois le céréal. Quand il n'y a plus de rouge, c'est fini. Let's go, t'es prêt, on part. On a besoin, souvent, parce que le temps, on ne le voit pas. Surtout quand c'est des choses qui nous intéressent. Ou, souvent, ma fille, je vais faire une demi-heure de voir. Une demi-heure! Elle a dans sa tête, c'est à 3h. Non, demi-heure, c'est ça, là. Hein? Quand il n'y a plus de bandelette rouge, c'est fini. Fait que les time timers, beaucoup, dans le fond, à éviter, dans le fond, qu'un enfant soit un peu désorganisé et qu'il ne comprenne pas nécessairement vers où on l'amène, parce que le temps peut être bien tricky. Ou il passe trop vite ou il passe trop slow. Nous autres, une minute, je suis avec quelqu'un qui n'est pas fin, dans ma tête, ça fait 3 heures. C'est évident que c'est des défis pour nous autres. Si on regarde aussi, puis on dit, on a de la difficulté aussi des fois à commencer ou à terminer nos projets, difficulté à gérer nos émotions, on est des petits pétards à mèche. Puis les émotions, c'est l'enfer. Parce que moi, je pars de 0 à 4000. Hein? Si tout va bien, à un moment donné, il y a un problème, ben, moi, je suis chaud. Là, le monde me regarde, tu dis, mais pétard à mèche, là, tu dis, être encore pogné dans ses émotions. C'est important d'amener les enfants à comprendre c'est quoi une émotion. Souvent, des fois, on va voir des enfants arriver, hein. Ah, tu veux, il est encore en maudit, il est en colère. Mais la colère est un parapluie d'émotions. Il est en colère parce qu'il s'est fait humilier, s'est fait blesser, s'est fait ridiculiser, il a eu honte, s'est fait frapper. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que souvent, la chose qui est importante, quand les enfants sont au primaire, on va présenter des volcans d'émotions. À l'arrière, vous avez plusieurs pictogrammes qui amènent l'enfant à certains scénarios. Vous avez des sites Internet que vous pouvez télécharger qui amènent le parent à amener l'enfant à comprendre sa condition. Quand ça va bien, ce qui peut se passer quand ça va mal, mais après ça, comment on fait un retour au calme? Donc, on vous donne des situations, on vous montre aussi comment développer des points pour les enfants. Parce qu'il faut un point de colère aussi. Hein? Moi, je pleurais, c'est moi qui faisais le bacon chez nous. Ma mère, elle me disait, non, Walmart, là, elle me garoche à terre. Puis là, c'est ma mère qui broyait. On ne broyait pas, moi, j'étais colérique au bout. Mais mon frère, lui, était prédominance inattentive. Fait que lui, ma mère, elle disait non. Lui, il avait le cœur sur la main. J'ai dit, donc, t'es-tu une petite popoune, toi, là? Lui, t'es sensible, sensible, il n'avait pas de bon sens. Lui, il traitait les émotions, mais d'une autre façon. Moi, j'étais la petite boy, la colérée. Je faisais broyer tout le monde, puis lui, mon frère, broyait tout seul. Fait que ça aussi, c'était utile pour mon frère. C'était des choses qui peuvent aider. Comment aussi on peut apprendre à surmonter notre colère? Pourquoi c'est intéressant? Ça passe toujours sur des choses qui sont humoristiques, des choses qui sont le fun pour aller chercher le jeune. Puis ça, que tu fasses ça, pas quand il est en grosse crise, là. Ça passera pas, gang. C'est pour ça qu'à un moment qui est le fun, on dit, hey, on va garder ça ensemble. Ça va bien. Ma petite fille, elle était un ange. Quand on a des petites filles à prédominance inattentive, au primaire, c'est des anges. Ou des petits gars de l'ambiance attentive. Là, ma petite fille, le matin, elle revient. Maman, vas-tu m'ouvrir la porte? Je vais à la salle de bain parce que mon autobus s'en vient. Elle fait comme un pic, ça, ça va pas. Quand l'adolescence est terminée, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un tricky d'hormones. Hey, ma fille! Je fais des toilettes! Je fais pas ma grosse! Hé, hey, là, je me dis, elle s'est transformée en Cro-Magnon. Et on a dit, faites attention, je vois des dames ici. Si vous avez une fille à l'adolescence, faites attention, c'est la dame à Cava. Elle a fini, la plus. Et, on ne sait pas pourquoi, mais ça sort en cours des recherches, les appels.
C'est
pas
seulement se trouver,
mais peut-être les autres. Ah, c'est pas seulement se trouver, hormone time. Les garçons, normalement, ils sont moins agressifs que les petites filles. Les petites filles, ils disent, on ne sait pas pourquoi, au bout des hormones. Et si on regarde les deux sexes, normalement, les filles sont plus agressives parce qu'ils vont aller aussi plus en psychologie. Ils vont se mettre en gang, ils vont plus se détruire. C'est plus mauvais une fille qu'un gars, là. Quand la fille n'a pas eu la mère, alors, là, la mère, elle descend le coup de pied. Pourquoi c'est le fun aussi? C'est que là, on apprend, dans le fond, à faire développer, d'avoir des bons comportements par rapport au comportement de nos enfants, puis on a aussi la vie de la colère. Sur ceci, il est 10 heures. Fait que ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un kiosque. On a un kiosque au niveau de à la salle des exposants. On a plusieurs outils, autres matériels qui sont présentés là-bas. Si ça vous intéresse, Caroline, la directrice, elle est là. Puis moi, je vais pouvoir répondre à vos questions aussi, si vous voulez, au kiosque. Et on va être de retour cet après-midi. On n'a pas fini, là. On va avoir bien du fun, là. Oui? Ça, vous allez me donner ça cet après-midi à la fin. À la fin, quand on termine, vous me donnez ça, puis je fais le tirage.